Cet épisode vous est présenté par Facial Roots. Peu importe si vous êtes en train de couper du bois ou simplement en avant de la télévision, nos produits vont vous faire bien paraître, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Nos produits pour hommes sont faits ici au Canada. Ils sont biodégradables, vegan et surtout jamais testés sur les animaux. Les produits Facial Roots seront disponibles très bientôt. Dans cet épisode, je m'assois avec JF Caron. Je suis pas sûr qu'il y a besoin d'une introduction, mais pour ceux qui ne le savent pas, JF est l'homme le plus fort au Canada. Il est présentement le troisième homme le plus fort au monde. Je suis allé le visiter à son gym de Québec où j'ai eu la chance de le regarder s'entraîner. Et je vous avoue que c'est vraiment impressionnant. Puis le pire, là, c'est qu'il fait avec un sourire. Une autre chose que je dois mentionner, c'est sa carrure. JF est 6 pieds 3, 350 livres. À 6 pieds 1, 200 livres, j'avais l'air d'un enfant à côté de lui. Pendant le podcast, on parle de ses compétitions, son état d'esprit avant et après ses compétitions. On parle de sa jeunesse passée sur une ferme, comment il a découvert le sport et l'impact de son père et son grand-père sur sa mentalité de vie. On parle aussi de ce qu'il veut faire d'un coup que sa carrière est terminée. Vous pouvez me trouver Nico Lagan sur Facebook, Instagram et Rumble. Faites la même chose pour le podcast au podcast RJL et tous les épisodes du podcast sont disponibles au rjlp.net/épisode. Peace! On va commencer directement. Comment est-ce qu'il va?
Ça va très bien.
Monsieur JF Caron, tabarnak de calice. Si vous regardez la vidéo, je suis arrivé ici, puis il se réchauffait. On aurait dit avec... explique ce qu'on a en arrière de nous autres. Là.
Ben, aujourd'hui, quand t'es arrivé, dans le fond, tu m'as surpris en pleine séance d'entraînement.
Ouais, c'est ça.
Je pratiquais mon dumbbell press, des circus dumbbell en arrière, puis une réplique du dumbbell de Louis Cyr de 273 livres. Puis c'était mon objectif de la journée, de réussir ce dumbbell-là, justement. Ça faisait presque un an que j'y avais pas touché. Il ramassait la poussière dans le coin là-bas. Je m'étais dit, cette semaine, il faudrait bien que je touche à ce dumbbell-là. Mon entraînement progresse de plusieurs semaines parce que je m'en vais dans une compétition à la fin du mois de février où est-ce qu'on a cette épreuve-là. Fait que aujourd'hui, c'était mon objectif. J'ai réussi. Bien content.
Fait que ça, tu fais des curls avec ça, right?
Des curls. pas des curls, c'est vraiment de l'amener à l'épaule et de faire le press à un bras. On a différents poids d'entraînement. Comme là-bas, on va avoir un dumbbell à répétition à 220 livres.
Ça, c'est ce que c'est le
noir.
C'est le plus gros des trois, en plus.
Ouais, hein? c'est le noir que j'ai fait en répétition aujourd'hui pour 6 répétitions.
Ouais. Puis, 40 secondes, je pense.
Ouais, à peu près 40 secondes. Fait qu'on a 75 d'alloués. Fait qu'au fil des semaines, il me reste encore quelques semaines d'entraînement, je vais augmenter mes répétitions. Mais d'après moi, je devrais être bon pour toucher à 9 ou 10 en compétition. Le record est de 11. Je devrais quand même m'en approcher. Ça devrait être des bons points. Puis j'utilise des charges plus lourdes aussi pour tester un peu mon power. Puis je voulais toucher à des charges un peu plus lourdes. Puis c'est le fun parce que quand tu redescends à 220, après,
c'est léger.
On dirait qu'il est plus facile. Là. Je sais pas si c'est juste... c'est comme quand les joueurs de baseball mettent un poids sur leur batte. Après ils sentent plus léger. Un peu le même principe. Mais c'est prouvé scientifiquement que t'es pas plus fort. Là.
Ça change absolument
rien. Ça change absolument rien. C'est psychologique plus que d'autres choses.
Mais sais-tu que l'aspect psychologique, c'est un hostile game changer quand tu y penses? Là?
Oui, ça se passe à... Dans tous les sports de compétition, il y a un aspect psychologique à ça. Ouais. On peut pas le nier. Certains gens vont peut-être avoir plus de difficultés que d'autres, par contre, avec cet aspect-là. Mais moi, j'ai tout le temps pris ça bien basic. Quand que le sifflette, il parle, ouais. Je parle moi aussi.
Tu te poses pas trop de questions, hein?
Tu t'en poses pas. La journée que tu commences à te poser des questions, ben premièrement, il y a peut-être des raisons pourquoi que tu vas te poser des questions en compétition.
Ouais.
Peut-être que tu t'es pas assez préparé. T'as peut-être des doutes sur toi-même. Ouais. Peut-être ça fait longtemps que t'as pas compétitionné, comme cette année. On n'a pas eu de compétition beaucoup. T'sais, on a compétitionné au Warner Classic en mars. Après ça, c'est allé au World Strongest Man en novembre.
Ouais.
Pour un athlète qui compétitionne à tous
les
mois.
C'est huit mois.
Je vais être franc avec vous. J'en avais des doutes. J'ai comme fait 8 mois pour compétitionner. Je suis vraiment en forme.
Ouais. Tu as fini 3e.
C'est ça. Tu peux te comparer aux autres athlètes d'habitude en compétition, mais là, tu t'entraînes. Tu sais que ça va bien, mais tu te mesures pas à personne.
Ouais.
C'est différent, mais je savais une chose. C'est qu'en compétitionnant pas pendant des mois, les gars vont tous être en meilleure forme physique.
Ouais,
c'est que je suis mieux d'être en forme. Puis quand j'ai réussi à faire le podium, mais je peux dire que j'étais à mon meilleur avis.
C'était ton meilleur. Parce que ça, c'est ton meilleur. Hein? Je regardais ta fiche. Là, t'avais fait 4 meilleur... avant, puis là, t'as fait 3.
C'est mon meilleur résultat en carrière depuis déjà 5 ans que je fais partie du top 5, mais j'avais jamais embarqué sur le podium. Hein? Et fini 4 l'année passée, c'est décevant. 4e, je pense, c'est la pire place, tu peux finir.
Ouais. Il est fait en quoi le podium? Il doit être solide en tabarnak pour avoir 3 doutes.
D'après moi, il est en bois, de mémoire. Ouais. D'après moi, il est en bois parce qu'il y avait quand même un gros gars. On avait Tom Stoltman qui a fini 2e, un gars de 400 livres, 6 pieds 9. Tom qui a fait une super compétition, mais il a fait une petite erreur. Comme moi, j'ai fait une petite erreur également, ça lui a sûrement coûté le titre. Moi. On peut dire ça par après, c'est facile.
Ouais.
Mais le gagnant de cette année, c'est Oleksiy Novikov de l'Ukraine. Lui, il a fait une compétition sans tâche, finalement.
C'était parfait. Quoi.
C'était parfait, il n'a pas fait d'erreur. Puis regarde, c'était lui le meilleur. Et c'est ça qui est le fun avec les hommes forts. Hein. Tu peux pas t'assiner sur le résultat. C'est le plus fort qui gagne.
Ouais, c'est comme tu disais tantôt, par rapport au combat, tu as des catégories.
Ouais,
mais en hommes forts, tu n'en as pas pantoute. Là.
Non, il n'y a pas de catégorie dans les hommes forts professionnels. Fait que c'est tout le monde ensemble, finalement. De tous les poids, tous les calibres. Fait que, le monde veut voir c'est qui vraiment le plus fort overall. C'est différent de certains sports où tu vas avoir des catégories. Mais je suis sûr que les fans aimeraient bien, des fois, dans des sports avec catégories, voir ces catégories-là s'affronter. Ça pourrait être intéressant.
Ben, tu sais, tu regardes la UFC, souvent, ça fait partie. Tu avais des gars de 170 livres qui se prenaient contre des 250, puis ça arrivait que les gars de 170 livres, ils gagnaient.
C'est en plein ça, puis on voit ça des fois. Moi, j'étais un amateur de tir au poignet également. J'aimerais regarder le tir au poignet.
Ouais.
Puis ils font ça des fois, des super matchs avec des gars de différentes catégories. Puis c'est pas tout le temps le plus gros qui gagne, je peux vous le dire. Puis là, c'est intéressant, tu peux comparer. Tu fais comme Tabarouette, t'as le gars de 200 livres, il a battu lui de, mettons, 225 et plus.
T'as-tu déjà essayé, toi?
Dans un super match. Oui, j'en ai déjà fait un peu, mais c'est vraiment un sport de spécialisation. Hein. Faut vraiment que tu sois spécifique sur ce sport-là. Puis ça se compare un petit peu peut-être aux hommes forts dans le sens où c'est un sport d'endurcissement.
Ouais.
Tu sais, pour faire un tournoi de tir au poignet, là, tu vas tirer plein de fois dans la journée. Là. Mais un gars comme moi, qui est pas préparé à ça, va faire 2-3 combats.
Puis t'es fini.
Fini, là, sans plus le bras. Mais pour être capable de gagner le tournoi, il faut que tu te rendes au bout.
Puis t'en as combien de gars, normalement?
Ça peut dépendre des tournois, mais j'ai un gars de tir au poignet qui s'entraîne ici, qui est classé numéro 1 au Canada dans les lightweight, dans les poids légers. Puis des fois, ils vont faire... Une vingtaine de combats de tir au poignet pour se rendre à la fin.
Ouais.
Et eux autres, c'est ça. Ça fait des années qu'ils s'endurcissent là, l'intérieur du coude. Là, puis c'est des exercices spécifiques.
Fait que c'est ça qu'il fait ici, lui.
C'est en plein ça. Puis endurer la douleur. Puis tu sais, le corps s'adapte à tout. C'est comme les hommes forts. Tu sais, tu t'essayes ça demain matin, je t'annonce que tu n'auras pas de plaisir puis tu vas avoir mal dans le corps pendant une semaine.
Ouais.
Mais nous autres, c'est normal. Parce que ça fait des années que je fais ça. Ça va être ma 17e saison de compétition cette année. Fait que pour moi, je suis dans ma zone de confort. Ben, le vrai tireur de poignet, après des années d'entraînement, est dans sa zone de confort. Fait que même s'il n'est pas le plus fort des fois, il va être le plus endurant. Il va brûler le gars et il va finir par le battre. Fait que c'est intéressant de voir un peu ce que ça prend pour arriver au top niveau d'un sport comme ça.
C'est de la psychologie. Il y a tellement... Le monde pense que malheureusement, c'est juste physique. Là.
Non, malheureusement pas.
Il y a une... je me rappelle jamais de l'étude, mais il y avait une étude qui avait été faite entre... il avait pris une équipe de basketball, il l'avait splitée en trois. Le premier tiers, il avait le droit de s'entraîner pendant leur break. Le deuxième tiers faisait rien. Puis le troisième tiers, tout ce qu'il faisait, c'est de la visualisation.
OK.
Après leur résultat, ils ont vu que le monde, dans le milieu, ils ont rien fait, sont venus pire et qu'est-ce qu'ils étaient. Les gars qui ont le droit de s'entraîner se sont améliorés, mais les gars qui ont fait la visualisation se sont améliorés autant que le monde qui ont pratiqué. Fait qu'imagine que tu fais les deux. Ça te montre, toi, t'en fais de la visualisation?
Oui. Moi, je pense que avant de te lancer dans une épreuve, il faut que tu saves exactement ce que tu as à faire.
Ouais.
Aucun doute.
Ouais.
Puis ça, je l'ai appris assez vite dans le sport, mais c'était important de l'enseigner également. Cette année, je te donne comme exemple, je suis allé au Wasson Gasman, il y a un loading d'objets lourds. C'était des pièces de camion. Il fallait lever puis transporter.
Yeah.
Puis il y avait un autre athlète canadien, un autre, Maxime Boudreau, qui était à sa première présence au Wasson Gasman. Lui, il était stressé avec cette épreuve-là, mais on a le droit au moins au Wasson Gasman d'essayer ces épreuves-là une journée avant.
Ah, ben OK, cool.
Je suis allé avec lui, j'ai dit, là, tu le sais-tu comment les prendre? Ah, je suis pas certain. On va retourner. On va y retourner. J'ai dit, il faut t'aille aucun doute. Lui, ça se prend demain.
Ouais.
Lui, c'est de même. Et quand ça part à la ligne, c'est pas le temps d'improviser. Il faut que tu sois prêt mentalement. Et quand tu sais exactement ce que tu as à faire, la première affaire, tu vas mieux dormir, peut-être la veille de la compétition, tu n'auras pas ce stress-là. C'est important de visualiser. Puis quand ça siffle, là, tu sais ce que tu fais. Tu n'es pas comme une poule pas de tête, tu sais pas ce que tu t'en vas. C'est dans tel ordre que ça se fait, c'est de telle manière, c'est technique. Puis quand tu es bien préparé, il n'est pas supposé d'arriver d'erreur. Ça peut arriver, mais tu diminues beaucoup la chance que ça se produise.
Réalises-tu la crowd qu'il y a là, toi? Tu le vois-tu ou tu ne le vois pas?
Pas vraiment. Je te dirais, premièrement, cette année, Wilson Gassman n'avait pas de crowd.
Cette année, oui.
C'était les caméramans. Puis c'est les autres athlètes qui nous encourageaient, finalement.
Vous vous encourageons de vous autres?
Tout le temps.
Ah, ça, c'est bon.
Toujours. Les gars sont là. Puis regarde, il y a le gars compétitif, il n'y a personne. Les athlètes, on est là au bord. au bout, tu sais. De toute façon, ça ne va rien changer à ton résultat. À toi. Et toi, tu as le contrôle sur ton résultat. Les autres, on veut juste que tout le monde se donne à 100% finalement. Puis les gars, on met du fun avec ça. Mais je te dirais, par exemple, l'expérience que j'ai des grosses foules, ça donne une adrénaline supplémentaire. J'ai compétitionné en Angleterre dans des arénas à pleine capacité.
Ouais.
Je me rappelle du Manchester Arena en 2017.
Manchester, ce qui joue au foot, là, ou ce qui joue au soccer qu'on dit au Québec, là, mais ouais.
Mais c'est capoté, là. C'est le bruit que ça fait, là. C'est dur à décrire.
Ouais.
Mais je me rappelle quand j'ai battu le record du monde au soulevé de terre en répétition. À cet événement-là, le bruit qu'il y avait, c'est de quoi j'oublierai jamais de ma carrière. Mais oui, la foule, ça donne un petit boost de plus. On n'a pas le choix de l'avouer. Mais il y en a peut-être que ça va jouer contre eux autres. Peut-être que ça va peut-être plus les stresser. Mais rendu au niveau de ce que je suis, les gars, c'est des professionnels. Ça fait des années qu'on fait ça. Fait que c'est plus un problème. Mais peut-être les gens au niveau amateur peuvent parfois être intimidés par la foule. Ouais.
Mais il y en a que ça joue comme un McGregor d'un combat, tu le vois. Comme quand il s'est battu la semaine passée, ce gars-là rentre, là, puis...
Non, c'est pas pareil.
Juice, là, tu le regardes, là, puis il prime juste le monde.
Ouais.
Puis il n'y avait pas de crowd, il n'était pas le même. Tu le voyais tout de suite. Ouais. Même le commentateur a passé un commentaire que le fait qu'il n'y a pas de crowd. Moi, personnellement, j'aime pas ça regarder ça, pas de crowd. Je trouve ça weird.
C'est spécial. Oui, on a la performance physique.
Ouais.
Comme d'habitude, mais c'est pas la même expérience.
Surtout pour vous autres. Hein?
La même expérience. Puis, tu sais, pour avoir entendu les athlètes dans le passé, le bruit qu'une grosse foule fait, là, ça te donne une poussée d'adrénaline que tu seras pas capable de trouver en faisant d'autres choses. Ouais. C'est un peu une genre de drogue. C'est quelque chose, un peu, je te dirais, qui me fait peur. Dans le futur, là. Même que j'en fasse plus, là.
N'aura
plus de ça. Tu comprends?
Ouais.
C'est plate un peu. Puis moi, j'étais un amateur de lutte beaucoup, puis j'écoutais à un moment donné Hulk Hogan dire ça.
Comme lutte WWE, là.
Quand il est rentré à WrestleMania 3, son combat contre André le Géant, à Pontiac, là, dans le Silver Dome, 93 000 spectateurs. Imaginez le bruit dans cet amphithéâtre fermé-là, avec presque 100 000 personnes. Il dit, je salivais tellement qu'il y avait du bruit. Ça fait 40 ans de ça, là.
Puis, on remonte à 87,
mais on en parle encore.
Ouais.
Tu comprends? C'est de quoi qui est dur à décrire.
Je pense que c'est pour ça que tu vois beaucoup d'athlètes. Je ne sais pas dans ton monde, mais tu vois beaucoup ça dans les combats. Les gars reviennent, sont en mid-quarantaine, parce que ça n'a aucun rapport avec l'argent.
Non.
J'ai vraiment l'impression que c'est la dopamine qui est...
Mais dites-vous, il n'y a pas vraiment de sportifs qui pratiquent le sport pour l'argent au départ.
C'est comme ça que ça commence. Ouais, c'est ça.
Tu comprends? L'argent vient plus tard dans la réussite, ça. OK, ça arrive, c'est le fun. Je le dis, c'est le fun. Mais l'argent, c'est pas la... Il n'y a personne qui fait ça pour l'argent à la base, c'est parce que c'est une passion.
Ouais.
Puis le gars se donne à 100% dans ce sport-là. C'est pas dans le but de faire de l'argent.
Ouais.
Le gars, il joue au hockey parce qu'il aime ça jouer au hockey.
Ouais.
Tu comprends? Puis même si ça ne payerait plus, il va jouer encore.
Il va encore jouer au hockey.
Parce qu'il aime ça. Ouais. Ça, c'est un joueur de hockey.
Ouais.
Tous les sports, c'est comme ça. Le sport de combat, les gars ne vont pas se taper sa gueule juste pour l'argent. C'est parce qu'ils aiment les sports de combat. Ils aiment le thrill de compétitionner contre un adversaire. C'est la différence. OK, quand tu atteins des hauts niveaux, l'argent va venir avec. Mais après ça, quand tu es comme rendu à la retraite, c'est dur d'arrêter. Quand ça fait 15, 20 ans que tu pratiques un sport... que c'est ta vie à 100%. Là.
Ouais.
Pour atteindre des hauts niveaux, là, c'est que tu fais juste ça, là, on s'entend. Là, c'est pas un hobby. Là.
Ouais, tu fais pas ça à temps partiel.
Quand que ça arrête, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont de la misère avec ça. Puis j'ai pas le choix de dire que ça m'effraie un peu aussi.
Là. Mais là, toi, tu as 38 ans.
Oui.
Est-ce que c'est quoi l'âge normal que les gars arrêtent? Considérant toi, on se parlait avant, puis tu disais que t'as pas de problème de dos.
Non, mais moi. Ça dépend beaucoup des blessures, mais je dois avouer que présentement, je suis un des 5 athlètes dans le monde qui ont fait le plus de compétitions dans leur carrière.
Okay.
Tu sais, je suis conscient qu'il m'en reste moins à faire que j'en ai fait. Là. Mais j'espère être capable de continuer encore quelques années parce que je suis à mon meilleur. C'est pas le temps de dire,
t'es troisième,
C'est pas le temps d'arrêter. Je suis encore en forme. Je pense qu'il m'en reste à donner. J'aime encore ça. J'aime ça me donner à l'entraînement et me donner à 100% là-dedans. Mais, tu sais, la prochaine peut être la dernière. J'ai pris une par une. Je ne ferai pas de projet, là, tu comprends?
T'as-tu déjà pensé à ce que tu ferais après ou tu n'as même pas considéré?
Je suis impliqué dans plein de choses. J'ai mon gym. J'organise des événements d'hommes forts.
Fait que ça, tu vas continuer.
Ça, je vais continuer. J'ai donné des conférences. Je suis impliqué dans plein de choses. Mon après-carrière est assuré déjà. C'est pas un stress pour moi, mais c'est quoi que j'aime dans la vie? C'est compétitionner.
Ouais.
Tu comprends? Fait que ça va être dur d'arrêter. Puis on le voit, des gars comme Zydrunas Savickas, ça fait plusieurs années qu'ils sont comme genre 6 mini-retraites, mais il veut tout le temps revenir.
Ouais.
Il veut tout le temps revenir. Il a fait ça toute sa vie.
Qu'est-ce qu'il va faire d'autre?
T'sais, puis même s'il gagne pas, t'sais, même si je vais au championnat canadien dans 5 ans, là, puis je finis pas le premier, c'est secondaire, ça.
Pas d'importance. Hein.
Je veux juste être là puis participer.
Ouais.
On voyage beaucoup avec les mêmes athlètes tout le temps. Ça vient nos amis. Ouais. C'est plus ça qui est important. Tu comprends? C'est pas juste le résultat. L'histoire va se rappeler des résultats. Ça, moi, je me rappelle des souvenirs qu'on a eus dans ces expériences de compétition-là. Des fois, je me rappelle même pas comment j'ai fini à tel compé, mais je me rappelle qu'on avait fait telle chose.
Ouais.
C'était passé telle affaire. C'est ça qui va manquer également, le voyagement, parce qu'on... Je vais être franc avec toi, j'ai fait le tour du monde plusieurs fois avec le sport. Au moins, ça m'a permis ça. Outre, on n'a pas des gros salaires dans les hommes forts, mais c'est des expériences qui n'ont pas de prix. Hein.
Je suis content de t'entendre dire ça parce que c'est une des choses, j'ai l'impression, que le monde a le plus de monde à comprendre.
Ouais.
Parce qu'à quelque part, c'est beau de faire de l'argent, mais les expériences, tu vas les avoir pour le restant de tes jours.
Ouais,
l'argent, tu vas avoir des hauts, tu vas avoir des bas, mais tes expériences vont toujours être là.
T'sais, oui, ça en prend de l'argent, mais je suis très, très content puis je me considère vraiment chanceux de pouvoir au moins vivre de mon sport.
Parce que t'as envie, toi, c'est ce que tu fais à 100%.
Oui, mais ça a pris des années
avant
d'en venir à ça. Tu comprends, j'ai travaillé très fort. Puis, des fois, j'avais deux jobs en même temps de compétitionner. Hein.
Ouais.
C'était pas facile, mais regarde, maintenant, OK, je suis plus à l'aise. On gagne plus d'argent avec les conditions. J'ai aussi des meilleurs résultats. C'est ça que ça m'a amené, mais juste d'en vivre. Pour moi, je peux pas demander plus. Regarde, je fais l'affaire que j'aime le plus.
Puis t'es payé.
Puis je suis payé.
Ouais.
Tu sais, j'ai vraiment pas à me plaindre. Puis tu sais, même si le gars, il fait ben de l'argent ou qu'il en fasse un peu moins, je pense que tous les athlètes vont apprécier ça. Puis après, justement, ce qui se passe présentement avec la pandémie, je pense qu'on le réalise encore plus, qu'on est chanceux.
J'en regardais sur Internet tantôt, puis j'ai trouvé à quelque part que ça a l'air que tu compétitionnais en ski avant.
Oui, oui. Moi,
j'ai vraiment bien lu. Oui. Je lisais ça, j'étais comme attends un peu, je suis trop fin.
Non. moi puis mes soeurs, on a compétitionné en ski alpin longtemps. Parce qu'on restait...
À ta grosseur?
Non, mais j'étais pas gros de même.
Okay,
moi, j'ai commencé les hommes forts à 22 ans, je pesais 215-220 livres, là. Tu comprends? Fait que quand j'étais jeune, j'étais petit comme tous les jeunes, là, finalement.
T'étais normal?
J'étais complètement normal, si on veut. Mais c'est ça, nous autres, je restais à peu près à 15 minutes du centre de ski, qui s'appelait le parc du Mont-Commis.
OK.
Fait que nous autres, on avait une ferme chez nous. Fait que l'été, très occupé avec le travail. Mm-hmm. Mais l'hiver, ça a l'avantage d'être un peu plus lousse.
Ouais.
Fait que moi, tous les matins, la fin de semaine, j'allais donner un coup de main à mon père à l'étable. Puis il venait nous porter au centre de ski à tous les jours. On était dans le club alpin. On s'est mis à faire des compétitions. Fait que, tu sais, le sport de compétition, là, je fais ça depuis que j'ai 7 ans. Ça a commencé très jeune pour nous autres. Ma soeur est encore plus jeune que moi. Fait qu'on a tout le temps fait ça. Puis c'était des belles activités aussi que toute la famille pouvait participer. Puis c'est là que j'ai commencé, disons, mes premières expériences à devenir compétitif, mettons. J'ai tout le temps été compétitif. Je faisais beaucoup de compétitions scolaires également.
Ouais.
Concours d'autographe, concours de mathématiques, j'ai tout le temps fait ça. Ma soeur également, elle aimait beaucoup ça. Fait que c'est tout le temps quelque chose que j'ai aimé. On dirait pas de compétition, il manque quelque chose. Là.
Fait que tu compétitionnes. Je sais pas, es-tu marié? Es-tu une femme?
Oui, ben je suis pas marié, mais oui.
Tu compétitionnes-tu avec elle à la maison?
Non.
Non? Ça, c'est le seul truc.
Non. On compétitionne pas. Mais Cathy est aussi compétitive. Elle a fait des compétitions de course de Barry, Western, pendant plusieurs années.
Course de Barry, Western. Ouais, tu parles sur un cheval.
Oui, en cheval. En cheval. Fait que, elle aussi, tu sais, elle a le tour de compétition, puis elle aime ça. Puis elle aime ça... justement me supporter. On voyage beaucoup ensemble maintenant pour les compétitions.
Ouais.
Fait que c'est quelque chose qu'elle aime également. Mais, tu sais, je pense que ça, ce bout de compétitif-là, c'est pas tout le monde qui aime ça.
Non.
Tu l'as ou tu l'as pas.
Ouais.
Mais moi, j'adore ça.
J'adore ça drive.
Puis ça me donne la drive et ça me motive à tous les jours. Puis, quand je me présente en compétition, là, c'est pas reculon. Là.
Ouais.
Premièrement, je suis bien content d'être là puis j'ai juste hâte que ça commence.
Je le vois dans tes yeux, t'en parles, puis tes yeux, ils identifient, quand ils sont... Quand est-ce que ça a cliqué? Quand est-ce que t'as pris un poids pis t'as fait « Oh shit, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. » T'en rappelles-tu
ben,
à ce moment-là?
C'est arrivé par pur hasard, mais c'est quelque chose que j'ai tout le temps aimé. Je me rappelle justement, on arrivait du ski. Puis dans le temps, les autres à l'auteur, on pogne pas à TV. Là. Fait qu'on avait une vieille antenne parabolique, tu te rappelles de ça? Puis il y avait un poste, je me rappelle pas c'était quoi, mais il y avait des vieilles compétitions d'hommes forts des années 80 qui passaient quand on revenait du ski. J'adorais écouter ça, là. John Paul Singmarson, Bill Kazmaier. Je regardais ça avec beaucoup d'intérêt, mais jamais j'aurais pensé de devenir un homme fort. Mais sur la ferme, j'aimais ça forcer, je me rappelle. Les autres à la hauteur, là, de la roche, il y en a beaucoup. Fait que on a ramassé de la roche, puis mon père engageait souvent mes chums. Venez nous aider, on ramasse de la roche, puis qui c'est qui va lever la plus grosse dans le champ? Puis elle, je suis pas capable. Puis là, c'était tout le temps de la compétition comme ça. Mais moi, après mes études collégiales, dans le fond, j'ai commencé à travailler dans une meunerie en même temps que je travaillais sur la ferme. Puis il y avait des gars qui faisaient des hommes forts, puis ils s'entraînaient dans l'entrepôt. Puis on recule en 2004. Puis à cette époque-là, moi, je m'entraînais pas. C'est que tu travailles sur la ferme, tu n'as pas le temps de t'entraîner au gym. Puis ils m'ont juste demandé d'aller faire ça, essayer. J'étais capable de flipper le pneu, marcher avec les marches fermiers. J'ai été capable aussi de faire la pierre d'Atlas. Mais le provincial arrive, là. Jeff, c'est à Mont-Joli dans 2-3 semaines. Là. Fais ça, essaye-le.
Tu t'es juste présenté au provincial.
Je me présentais là, puis sur une trentaine d'athlètes, ils prenaient le top 12 pour la finale, mettons ce que tu voyais RDS. Mais j'avais fini 17e, battant justement à peu près tous les gars qui s'entraînaient à Munerie.
Puis tu t'es juste présenté.
De là a commencé mon entraînement. Je me suis dit, crème, je suis capable de les battre, eux autres.
Puis je m'entraîne même pas
pour ça. Mais il y a aussi du monde qui était à la compétition, qui m'ont vu aller. Ils ont fait, OK, il y a peut-être de quoi faire avec lui. Eux autres, ils m'ont beaucoup guidé dans l'entraînement parce que la seule expérience d'entraînement que j'avais, là, c'était le cours d'éducation physique qu'on avait eu au cégep. J'avais appris à faire un peu d'entraînement en salle, mais pas plus que ça. J'étais bon en course. J'ai fait beaucoup d'athlétisme. J'étais super en forme. Mais, tu sais, pour lever des poids, j'étais pas là. Mais, tu sais, j'avais un bon bas de dos, des bonnes mains. Tu sais, j'étais habitué de travailler physiquement. Tu sais, je me rappelle la première fois, j'avais fait un soulevé de terre sur une barre.
Ouais.
Ils m'ont fait essayer ça. J'avais levé 585 livres. C'était 6 plaques.
Ouais.
Sur une barre. Fait là, ils ont fait sacrement.
Okay. Puis t'as juste comme, OK, let's do it.
C'est ça. Fait, j'avais réussi à lever ça, mais tu sais, j'étais pas fort des jambes. Là. J'avais juste un bon dos. Fait là, les messieurs ont fait, oh, OK. Eux autres, c'était presque le max aussi. Puis moi, je m'entraînais pas, puis je levais ça. Ils ont dit, moi, lui, il a un certain potentiel, fait qu'ils m'ont aidé à m'entraîner. Puis j'ai fait mon chemin au fil des ans.
As-tu... une chose que je me demande, parce que tu parles des vieux vidéos des années 80, as-tu la chance de rencontrer... T'as dû rencontrer tes idoles que tu regardais, puis y en a-tu un en particulier que t'as regardé, puis t'étais comme une petite fille, là, t'es...
Ben c'est sûr, la première fois que j'ai rencontré Bill Kazmaier à mon premier War Song Guest Man en 2008, c'était tout un événement, parce que c'est lui qui travaillait pour ESPN qui te donnait en entrevue. J'avais gagné le soulevé de terre dans mon groupe, justement en 2008, puis il m'avait interviewé. Fait ça, je vais m'en rappeler toute ma vie. Mais tu sais, après ça, Bill, c'est devenu un gars... C'est normal de se voir, là. On y est tout le temps là dans les compétitions. Mais des fois, il vient s'asseoir avec moi de déjeuner, bon, jase, il me raconte des vieilles histoires, c'est comique. Tu comprends? Mais ces idoles-là sont devenues justement... Pour plusieurs, comme ça s'est tourné à Stavikas, des amis. Brian Shaw également. T'sais, au fil des ans, on a compétitionné ensemble des dizaines de fois. Puis ça m'a fait prendre conscience aussi que quand tu commences à compétitionner, justement avec tes idoles que tu regardes de haut, là, finalement, c'est comme, c'est comme Dieu un peu. Là. Tu vois Stavikas, c'est comme tout est compris. Mais là, tu te rends compte quand tu commences à le battre à des affaires, c'est un humain lui aussi. J'ai appris beaucoup de ce gars-là. Je le regardais faire. Le gars est champion du monde.
Ouais.
Moi, je suis un gars très visuel. Je regardais comment il prenait les objets, comment il se déplaçait, pourquoi il fait ça. T'as pas besoin de te poser 1000 questions. Si le meilleur au monde fait ça de même, c'est de même faut que tu le fasses.
Il y a des bonnes chances.
J'ai pris exemple, puis lui m'a donné le conseil en 2011, quand j'ai commencé à compétitionner en Europe sur le circuit de la Champions League. J'avais demandé, j'ai dit, comment faut que je fasse pour devenir bon comme toi? Il dit, fais des compétitions.
Fais-en.
Compétitionne, beaucoup. C'est ce que je me suis mis à faire, 20-25 compés par année, tout le temps. Ça marche.
20-25
compétitions. Je dis aux gars, la compétition, c'est le meilleur training que vous allez faire. Il faut t'apprendre à compétitionner. Tu comprends? T'entraîner dans le gym, c'est une affaire. Mais être bon en compétition, ça en a un autre. Puis c'est ce que j'ai fait. Toutes les compétitions qui m'invitaient, j'y allais. Oui. Tout le temps. J'ai jamais fini dans le champ. Jamais.
Tu t'assois-tu des fois puis réaliser ce que ta vie a là de l'heure? C'est-tu conscient ou t'es pas encore rendu là?
Je suis très conscient, puis je suis surtout conscient que je suis bien chanceux de faire ça. je suis très privilégié de faire ça parce que je suis le seul gars au Canada qui peut dire vraiment qu'il vit des hommes forts. Puis c'est pas normal, à mon avis. Je pense qu'il devrait y avoir d'autres gars.
Pas que t'es le seul, c'est pas normal.
Non, ouais. C'est pas normal que je sois le seul. Ça veut dire que le sport est sous-payé. Même si c'est super populaire au Québec, je pense qu'il devrait y avoir plus d'athlètes, justement, qui auraient de la reconnaissance puis l'appui pour pouvoir vivre de ce sport-là puis vraiment pouvoir se concentrer à 100% là-dessus, justement. Parce que le problème qu'ils ont, les autres gars qui ne vivent pas de ça, bien, ça leur prend un job à temps plein.
Ouais.
Fait, c'est dur, là, faire le step à l'international quand tu as un job à temps plein. Fait que c'est complètement différent. Mais... justement, quand je regarde ça, moi, je me trouve vraiment, vraiment chanceux. Moi, c'est la plus belle vie que je pouvais penser. Regarde, je vis de ma passion. Puis, je dis au monde, moi, je travaille pas. Moi, j'ai du plaisir, ouais. Je viens m'entraîner. Ouais. J'ai du fun. Je me suis entraîné aujourd'hui avant que tu arrives. Moi, j'avais hâte de venir, là, puis m'entraîner. Mais c'est parce qu'il faut que ce soit une passion à la base. Tu sais, c'est comme le gars, tu suis beaucoup, je pense, les combats ultimes.
Yeah.
Tu sais, les gars aiment ça, là, faire les cours techniques, là, de
ben
jou,
oui.
Puis de le boxe, puis tout ça. Sinon, si c'est un fardeau faire ça, tu t'offres pas. Tu te rendras jamais au bout.
Tu seras pas motivé non
t'sais,
plus.
Pis c'est la même affaire en bodybuilding. On a parlé de bodybuilding aussi.
Ouais.
T'sais, comment qu'il y en a qui commencent ça? Ah, je vais faire une compé, puis qu'ils la font pas. Je pense qu'il y en a un sur 100. Puis là, je suis peut-être conservateur qui va se rendre
absolument.
À la compétition. Dis-le, mais que tu sois rendu. C'est ça que je lui dis. T'sais, avant de parler, fais-le.
Ouais.
On en reparlera après. Mais il faut que ça soit une passion. Si tu aimes vraiment ça, ça va se faire tout seul. Moi, c'est ce que je pense.
Ta diète, elle a l'air de quoi? Je suis vraiment à te regarder.
La diète, c'est quelque chose qui est difficile. C'est le bout le plus dur. L'entraînement, ça, c'est le fun.
T'es-tu sérieux?
C'est le bout le fun. Parce que là, je suis à 7 repas par jour. Fait, je mange un 8500 calories par jour. C'est de l'overfeeding, je te dis.
Ouais.
Si t'as faim, tu manges pas assez. C'est ça, les hommes forts. Mais tu sais, le monde dit que c'est pas normal. Comment ça qu'ils mangent de même? C'est parce que comment tu veux encaisser le volume d'entraînement, puis récupérer, puis progresser.
Ouais.
Parce que si tu manges pas assez, si tu progresseras pas, tu vas te brûler. Tu comprends?
Fait que
tu
as dit 8500 calories.
Moi, là, j'étais à peu près à 8500. L'hiver, ça se mange bien. Pour vrai, là, ça se mange très, très bien. L'été, c'est un peu plus dur. Quand il fait plus chaud, on a moins d'appétit.
Ça tente moins.
Ouais, mais j'ai des trucs là, pour essayer de tout rentrer ça. Mais c'est tout le temps de te pousser à manger. Puis ça, le monde, ils comprennent pas ça.
C'est quoi tu manges? C'est quoi tu manges?
C'est de la viande puis du riz. Beaucoup.
J'ai ton chum qui avait. Ton chum mangeait ça.
C'est ça.
Ouais,
il mangeait, il avait de l'air, je pense qu'il y avait du bœuf avec du riz.
J'ai vu une grosse pile de riz. Là.
Il mange ça, c'est beaucoup ça, parce que le riz se digère bien, ou des pommes de terre, un des deux.
Yeah.
Si on ne mangera pas des pâtes, souvent tu vas te sentir plus gonflé, ça se digère moins bien. Je vais manger beaucoup de viande blanche en début de journée, exemple. Digère plus vite que de la viande rouge fin de journée. Des trucs comme ça qu'on a pour essayer de manger plus, mais la partie diète, c'est ce qui est le plus dur. Puis c'est comme ça aussi que j'ai réussi pendant mes 17 années de compétition de prendre du poids à chaque année, de passer de 220 livres à 350.
Ça n'a pas de
sens. OK, ça a monté vite là, à 280, là, mais à un moment donné, tu pognes un nœud. Là. Mais l'affaire, c'est que tu ne sais pas c'est quoi manger. Quand tu penses que tu sais quoi manger beaucoup, je te dis, tu ne le sais pas. Fait que là, la discipline s'est accentuée au fil de ces années-là. OK, là, puis là, tu t'habitues aussi à manger plus. Là, tu manges plus, puis veux pas. Meilleur mes résultats étaient, plus je me discipline, parce que t'en veux plus. Ça se fait graduellement. Tu peux pas prendre quelqu'un qui mange 3 repas par jour et en fait manger 7.
Non.
Ben, il va peut-être le manger la première journée, mais le lendemain, c'est fini. C'est de l'augmentation comme ça, d'année en année que j'ai faite. Moi, j'avais déjà dit, c'est drôle, parce que mon chiropraticien, ça fait longtemps qu'il me suit, il me disait ça cette semaine, Vincent. Il dit, te rappelles-tu, maintenant, t'es arrivé à 300 livres, tu m'as dit, Chris, Vincent, je pense que j'étais à côté, là. J'étais à côté, j'en rends un but. J'ai dit, garde, là, je te regarde, là. Il dit, embarque sa balance, j'étais à 349 livres. Il dit, garde, ça n'a pas de sens. Il capotait un peu, mais c'est ça, gruger un 5 livres par année de masse musculaire, c'est quand même difficile, là, à s'entraîner comme ça, parce qu'on s'entraîne pas juste, admettons, bodybuilding style pour prendre la masse.
Pour bien paraître,
Ouais, parce que ça, c'est peut-être un peu plus facile d'aller chercher ce masse-là, mais en forçant beaucoup, c'est difficile. Puis deuxième chose, on ne fait pas juste s'entraîner. Quand tu compétitionnes 20-25 fois par année, c'est dur de prendre 5 livres de masse musculaire d'un an. Parce que tu tapes des voyages en Australie puis en Afrique du Sud, tu reviens de là, tu viens de dropper de 20-25 livres, facile.
Es-tu sérieux?
Ouais, oui, parce que là, ces journées de voyagement-là puis de compétition,
non, tu manges pas.
Tu manges pas 7 repas par jour au bouchon, là, c'est impossible. Là, tu perds du poids rapidement.
Au bouchon?
Oui.
Vraiment que tu es à veille de vomir puis tu te crisses un bouchon, c'est ça que tu veux dire?
Quasiment. C'est tout le temps sur le bord, là. Mais c'est ça de l'overfeeding, mais tu t'habitues. tu t'habitues, mais c'est dur quand tu compétitionnes. C'est sûr, si je fais juste, regarde, cette année, là, pourquoi j'arrive au meilleur de ma forme au Wrestling Guessman? J'ai pas fait de compé. Je faisais juste l'entraînement.
C'est ce que tu fais
juste s'entraîner, manger, là, ouais. C'est extrêmement facile. Faire une compé aux 2-3 semaines, puis des voyages en international, c'est très difficile.
Hey, c'est 20 compétitions par année.
À peu près.
Fait que t'en fais quasiment deux par mois.
Grosso modo. Mais c'est parce que l'été, on compétitionne presque toutes les semaines. Fait que ça augmente quand même assez rapide. Puis les internationales au travers de ça. Puis on en a au Canada beaucoup. Avec le circumfort, ben là, c'est sûr que là, non, à cause de la maudite pandémie. Là, on va sûrement 2 ans sans en avoir. Mais avant, c'était ça. Là. Puis c'est pas juste les compés. Je faisais beaucoup de démonstrations. Fait que tu forces tout le temps. Mais c'est ça qui m'a permis à vivre de mon sport, tu comprends? Si je fais une compé par année, il y a des gars comme Brian Shaw, ils pouvaient se permettre ça. Fais le Wars Longest Man, fais le Arnold Classic,
il est relax.
Le gars, il est millionnaire. Ouais. Tu comprends? On n'a pas la même situation. C'est la différence un peu. Moi, si je veux vivre de mon sport, ben, il faut que j'aille compétitionner. Si je ne compétitionne pas, il ne rentre pas d'argent.
Parce que toi, tu es payé d'après. Fait que c'est quoi? Il y a un montant d'argent, c'est comme le golf, là. Il y a un montant d'argent pour le tournoi, puis il te split
c'est
d'après
ça,
ce que
comme exemple,
d'après ce que tu finis.
La compétition du WOS au Bahreïn, qui est des très bonnes compétitions. C'est des compétitions qui ont 150 000 $ en bourse.
Yeah.
75 000 au premier, puis c'est splitté aux autres après. Fait que mieux tu performes, plus tu vas avoir d'argent. Mais c'est ça. Maintenant, il y a beaucoup plus d'argent. Et dans le temps, j'ai gagné des Champions League, là, dans le temps, là. Gagné 2 000. C'est ça que ça donnait. C'est qu'on rappelle tous les meilleurs compétitionnaient dans la Champions League à l'époque. Fait que c'était pas la même réalité. Il y avait juste les gros shows, Arnold Classic, Wilson Gassman, qui payaient beaucoup. Mais à l'époque, tu sais, j'étais faire la finale, c'était mon challenge. C'était pas de gagner. J'étais pas au même niveau. Mais les hommes forts ont beaucoup progressé. Puis c'est dû à l'arrivée de gros commanditaires dans le sport,
ouais,
comme Rogue Fitness, ouais. SBD, qui ont injecté de l'argent. Puis les compétitions, c'est plus comme avant. Tu sais, on a des salles de warm-up qui n'ont pas de bon sens. T'sais, c'est super équipé, l'air climatisé. Au World Song Semaine, la tente avec les divans, puis le Wi-Fi, puis les femmes là-dedans. T'sais, c'est le gros luxe. Moi, j'ai fait le World Song Semaine souvent, là, petite chaise pliante là, de plastique, une fois sur deux, elle allait foire dans le coin parce qu'il y a un gars qui est trop gros. Puis souvent, c'est dans des pays très chauds, pas de ventilation. T'es assis au soleil toute la journée. Puis il fait plus 40 à l'extérieur, puis pas de warm-up. OK, c'est le deadlift, let's go, envoyez. Amène-toi un élastique, là, fais du réchauffement, puis ça part. C'était ça avant le Wrestling Guessman. Fait que les nouveaux athlètes, des fois, j'ai vu chialer. J'ai dit que vous savez tellement pas ce qu'on parle. Vous êtes très, très chanceux maintenant.
Y a-t-il une place au monde où ça t'a. Y a quelqu'un qui t'a choqué, y a quelqu'un qui t'a approché? Il y a quelqu'un, tu sais, comme un fan, que, parce que tu dois te faire reconnaître. À la grosseur, il n'y a,
oui.
a aucune fucking façon que tu marches dans la rue
non,
qu'on te reconnaît
je
pas.
Dirais, beaucoup en Europe.
Ils te reconnaissent
puis maintenant,
plus.
Aux États-Unis, là, je suis souvent reconnu à l'aéroport.
C'est-tu cool? T'aimes-tu ça? Ça te dérange-tu?
Oui, j'aime
t'aimes
ça. Les gens, j'ai jamais eu quelqu'un vraiment déplacé. Je te dirais...
Il y a ben trop peur
les gens. Non, mais les gens sont gentils. Tu sais, t'abordes quelqu'un parce que t'admires ce qu'il fait un peu.
Ouais.
Les gens sont polis. Souvent, ils veulent juste avoir une photo. Puis, tu sais, ils osent même pas le demander.
Ouais.
Voulez-vous une photo?
Puis, fait que c'est toi qui le propose.
On va prendre le temps avec ces gens-là. Tu sais, c'est le même dans tous les sports. Je pense que les athlètes, ils se doivent d'être près de ces fans-là. Parce que s'il y a personne qui le regarde, ton sport, là, il va mourir.
Tu n'auras pas d'argent non plus, tu ne te feras pas
puis
payer.
Tu feras pas d'argent non plus. Pourquoi c'est rendu populaire comme ça, les hommes forts? C'est parce que les gens ont un intérêt. Puis je pense qu'il y a beaucoup de fans également qui apprécient la proximité avec les athlètes. Parce qu'on fait souvent, comme dans les arena shows en Angleterre, là, le dernier que j'ai fait, c'était la team competition du Ultimate Strongman avec Glenn Ross en novembre dernier que j'ai remporté avec
Good
Christopher Tsikowski. Mais après la compétition, on était à Nottingham, là, dans la ville de Robin des Bois.
Yeah.
On a fait au moins 2 heures d'autographe après. On était tous assis à des tables, puis toutes les fans qui avaient payé le billet, parce que l'aréna était pleine. T'sais, ils ont payé. Pourquoi qu'on a eu de l'argent? C'est parce qu'ils ont payé le ticket. Ben, on a pris 2 heures de prendre des photos puis de signer les choses de ces gens-là puis de discuter avec eux autres. Je pense qu'ils apprécient beaucoup ça. Parce qu'ils ne feront pas ça à la fin d'une game d'hockey, là, de mettre les joueurs des Canadiens en ligne puis d'aller faire des autographes puis de le serrer en main. Je pense pas que ça arrive. Mais cette proximité-là, je pense que les gens apprécient ça. Puis en Angleterre, le sport est très populaire. Puis je pense que c'est une des raisons.
Oui, c'est de valeur, ça, par exemple. Tu touches un bon point. C'est de valeur que c'est pas comme ça pour tous les athlètes. Peu importe ce que tu fais, c'est la raison que tu es capable de faire ce que tu fais, c'est parce qu'il y a du monde qui paye
ben
pour
oui,
t'avoir.
C'est parce qu'il y a du monde qui paye.
Mais c'est de valeur que c'est pas universel dans tous les sports, ça.
Ouais. Mais j'aimerais bien ça. Je pense que s'il le ferait dans d'autres sports, il serait apprécié. Puis le gars, là, qui paye, je sais pas, 200$ pour un ticket au Canadien.
Ouais. Ah, ouais, c'est cool.
Il peut voir Carey Price à la fin de la game. Ben, c'est sûr qu'il y a 20 000 personnes aussi, c'est dur. Mais peut-être des VIP, je suis sûr qu'il y a du monde qui mettrait le montant juste pour avoir ce petit 30 secondes-là. Prendre une photo avec leur athlète préféré, ça vaut de l'argent aussi. Je sais qu'ils font plein d'affaires dans les pré-saisons, tout ça. Mais là, c'est impossible d'avoir du monde anyway. Mais il faut que tu les en redonnes. T'sais. Souvent, les artistes le disent. Hein. C'est dans le début de carrière, très proche du monde.
Ouais.
Mais avec la popularité grandit, l'argent rentre, on s'éloigne sans s'en rendre compte. Tu te rends compte que tu es plus loin de ton public.
Ouais.
Mais je pense que la proximité, nous autres, on le fait beaucoup ici au Québec, dans les démonstrations, dans les compétitions, avec les fans qui viennent nous voir après les compés. On signe, on prend des photos, tout ça. Je pense que, puis surtout, les enfants. Les enfants vont se rappeler de ça longtemps.
Ça, c'est clair. Hein? Quand on a ramassé des enfants, c'était biceps, toi.
Oh oui, oui. Mais des fois, après les compétitions, on se dit, OK, là, je prends plus personne, ben, sinon, ça finit plus. Là, ils veulent tout se faire prendre.
Ouais.
Puis des fois, tu es très fatigué. Mais on prend tout le temps du temps avec ces gens-là, parce qu'ils sont pas là, ces gens-là, il n'y a pas de compétition.
Fait que c'est où que tu as aimé le plus compétitionner? Y a-t-il une place au monde qui t'a fait triper plus qu'un autre?
En termes de voyage, oui. Mais en termes d'expérience, je te dirais que les arena shows, comme le Arnold Classic, puis les shows d'arena Giants Live en Angleterre, c'est les meilleurs. Mais en termes de voyage, par exemple, parce que le Worst on Guessman est un show de télé, fait qu'il n'y a pas vraiment de foule. Mais les voyages les plus beaux que j'ai faits, c'était dans certains World's Longest Men. Comme je parle souvent, en 2016, on était allé au Botswana, à Kazani. C'est une place qui est dédiée juste pour les touristes, pour les safaris.
Ouais.
Les éléphants d'Afrique sont à 75% tous dans cette région-là. C'était merveilleux. C'est le plus beau voyage que j'ai fait de ma vie, puis je compte bien retourner après ma carrière.
Question, j'ai vu des gars lever des chars. Tu t'essayes-tu pour la fin, toi? Lever des chars, des autos.
Ah, ben on a souvent ça en compétition.
Mais t'es-tu capable de les flipper?
Oui, ben moi, j'ai un record Guinness.
Parce que d'habitude, la compétition, c'est en arrière, là. Tu ramasses comme...
Oui, mais sur le flip de côté, c'est parce qu'il faut que l'auto soit modifiée. On s'entend qu'une bavette de char, en dessous, c'est en plastique.
Oui, elle va te casser dans les mains.
Mais moi, j'ai un record Guinness pour le plus grand nombre de retournements de voiture en 5 minutes. J'ai fait 13. J'étais en Chine en 2015, puis c'était un vieux Jetta, là. Vieux Jetta. Puis fallait-tu le flip au complet? Au début, c'est facile, mais à la fin, il y a le top.
Il est foiré, tout écrasé.
Là, il est chien à virer de l'autre bord. C'est qu'il se met à deux levées par retournement. C'était difficile, mais je n'étais pas au bouchon. Il m'en restait un peu dans la tank pour en faire une coupe de plus. Puis il m'avait appelé justement l'année passée pour battre ce record-là.
Tu serais capable?
C'est été cancellé à cause de ce que vous savez. Mais je serais capable de le rebattre, certain. Certain, puis on l'a fait dans des conditions horribles. Parce que quand il t'invite dans les shows de record Guinness, c'est le fun parce que quand tu invites Guinness pour faire un record, c'est toi qui payes. C'est cher, c'est genre 25 000 pièces. Mais quand tu es invité dans un show de record Guinness, eux autres, ils payent, puis ils payent bien.
Ils payent bien.
Fait que ça, c'est le fun. C'est prestigieux d'avoir un record Guinness. Sauf que tu sais pas quand est-ce qu'il va passer. Moi, j'ai fait ce record-là à 2 h du matin. Puis il faisait moins 5 dans l'entrepôt en Chine. Je m'en rappelle encore, j'avais les doigts gelés, ben zut. Mais dans une meilleure situation, mettons, puis là, maintenant, je sais que je suis plus fort. Je suis capable de battre ça facilement. Mais c'est ça le fun aussi d'avoir ces records-là, c'est qu'ils t'invitent pour rebattre.
Ouais.
À rebattre tes records. Puis c'est tout le temps le fun, ces affaires de records-là. Ils font ça pour la télé, dans le fond. C'est Guinness, c'est anglais. Là, puis ils font ça pour la télé. Puis en Chine, ils en tournent beaucoup de ça.
T'as-tu déjà fait ça, toi, dans un... T'as pas l'air d'un gars qui a beaucoup de frustration, là, mais ça serait impressionnant de faire ça à quelqu'un qui te coupe, hein? Il te lance le doigt, tu vas juste sortir de ton champ, puis tu le flippes dans le...
Ouais, mais non, je suis pas quelqu'un qui est super...
T'as pas de l'air.
Super agressif. De toute façon, moi, faut que t'en repenses deux fois à tes actions, hein? Fait que débarquer de ta voiture pour aller en taper un autre, c'est jamais une bonne idée. Même si des fois, on en a tout envie, là. Mais non, faut pas faire ça. Mais ouais, ça pourrait se faire. C'est pas si dur que ça. Là. Puis quand ils adaptent le char, c'est qu'ils vont souder une barre en dessous. Fait que t'es capable de la soulever. Ça se fait. Mais tu sais, juste lever le derrière d'une voiture, c'est pas pesant. Là. Comme quand vous regardez les compétitions au niveau national du circumfort, c'est des VUS, puis il y a du poids dans la valise. On a juste ça pour que ces manchons, il y a, mettons, 900 livres à peu près.
Et tabarnak.
Les gars, on fait des répétitions avec ça. C'est parce que c'est plus facile qu'un levé avec une barre, parce que c'est juste un ballon.
C'est juste un
système de levier, mais on a des balances. Puis quand on le fait en dos, il faut que ce soit égal.
Ouais.
Fait que c'est pesé à livre près, pour que ce soit égal. Fait qu'on a juste les poids d'invalise comme ça. Mais tu sais, pour quelqu'un normal, c'est sûr que c'est infaisable.
Comme tu parles de quelqu'un comme moi. Là.
Oui. Pas souvent. Mais tu sais, des fois, j'ai vu souvent du monde en démonstration parce que c'est une épreuve que je fais très souvent en démo. C'est super impressionnant. On prend un VUS, lève le VUS. Embarque deux personnes, lève le VUS. À la fin, il y a 12 personnes dans le VUS, puis je le lève encore. Puis souvent, je l'ai fait avec Jimmy, des fois, je demande à quatre gars du public, là, des SHP, de venir le lever, ils sont pas capables.
Fait que tu fais juste montrer que c'est fait pas facile.
C'est pour montrer aux gens la différence un peu. Puis il y a des épreuves qui sont plus faciles, justement, à démontrer. Ce que j'aime aussi, c'est la compétition qu'on lance les barils.
Justement, j'allais te poser, tu lis mes pensées, je voulais parler de ça.
Ouais. Parce que si je te dis, OK, là, je veux que tu lèves le char,
ouais.
Tu sais que tu le lèveras pas, là.
Ouais, ouais, ouais.
Tu sais pas ce que ça pèse, tu comprends?
Ouais.
Mais le fameux baril, tu vas le lever, par exemple.
Ouais, ouais.
Puis là, quand tu fais faire ça au monde, ça a l'air facile, là, quand tu regardes. C'est comme tous les sports, là, dans ton salon, tout a l'air facile. Fait que là, t'es capable de lever un baril de 50, 60 livres. Mais mec, tu l'aides dans les mains, là, tu comprendras pas comment je vais faire pour accélérer ça pour que ça revole 15-16 pieds dans les airs. Fait que là, les gens font comme, OK. Parce que pour quelqu'un qui s'entraîne pas, juste lever un baril de 60 livres de même,
ouais.
C'est quand même dur.
Ouais.
On s'entend.
Ouais.
Fait que là, pour le lancer, la personne n'est pas capable. Le baril va juste tomber en arrière de lui. Fait que c'est une bonne façon de démontrer c'est quoi la différence. Puis je pense que c'est ça que les gens aiment des conventions d'enfants. C'est ça qu'ils viennent voir. Ils viennent voir de quoi ils sont pas capables de faire.
C'est la seule raison que je les écouterais.
C'est ouais. La différence entre ouais. Les hommes forts puis ce que je vais appeler les athlètes de force au niveau amateur dans des certaines catégories de poids. Les gens vont être moins attirés vers ça, peut-être, en termes spectacle. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont compétitionner là-dedans. Des fois, il y a 100 personnes qui compétitionnent. Mais le public, ce qu'ils veulent voir, c'est quoi? Ils veulent voir quelqu'un qui va lever de quoi? Qui n'a pas de bon sens.
Le
que
plus
personne
fort.
Va lever, c'est ouais. Ça. T'sais, oui, ça peut être impressionnant de voir un petit gars de 200 livres lever une grosse charge. Mais il y en a peut-être dans les estrades qui sont capables. Moi, quand je fais une démo, il n'y a personne qui descend des estrades qui vient lever. Là. Ça, c'est garanti en partant si tu achètes une démonstration. Mais c'est ça que le monde veut le voir. Ils veulent voir de quoi ça n'a pas de bon sens. C'est de ça qu'ils vont se rappeler. Puis je pense que c'est pour ça que les gens apprécient les hommes forts. Surtout au Québec, on a tout le temps des grosses foules. Des fois, c'est des affaires organisées un peu sur le fly. On fait une call-in démo, puis ça se remplit de monde. Les gens, ils veulent nous voir forcer parce que souvent, les gens vont entendre parler de moi. Ils vont nous voir peut-être à la télévision.
Ouais.
Mais le voir en vrai, c'est une autre affaire.
Bien, y a-tu quelqu'un en compé que tu n'as pas eu la chance de te prendre compte puis que tu aimerais ça te prendre compte? Y a-tu quelqu'un que tu aimerais ça battre?
Ben, cette année, sérieusement, après le World Strongest Man,
ouais.
J'étais pas content que Novikov m'ait battu.
OK.
J'étais vraiment pas content. Puis j'ai eu ma revanche le mois d'après à Shot Classic, je l'ai battu. Je l'ai battu, il a fini troisième, j'ai fini deuxième à cette compétition-là. Là, j'étais content. Mais c'est tout le temps les mêmes gars. Tu sais, dans les hommes forts, il n'y a pas 1000 athlètes différents là, à notre niveau. Il y a 10-15 gars.
That's it, hein?
De top niveau. Tu sais, que tu sais qu'ils peuvent finir top 5, mettons.
Ouais, ouais.
Fait que c'est tout le temps les mêmes. Fait que j'ai forcé avec tout le monde. Mais j'avoue que si on pouvait reculer dans le passé,
ouais.
J'aimerais ça me mesurer à des athlètes légendaires comme Louis Cyr.
Ouais, c'est boire,
tu
hein?
comprends qu'il a fait des exploits de force. C'est parce que c'est des choses qu'on ne fait plus vraiment aujourd'hui. Mais tu sais, juste lever le dumbbell de Louis Cyr tantôt, c'est le vrai poids que lui a levé. 273 livres quart qui a été mesuré à Londres. T'sais, ça veut dire quelque chose pour moi parce que ça fait partie de l'histoire. C'est important. Mais je pense que ça serait ça que j'aimerais le plus. Pas nécessairement de compétitionner contre ce gars-là, mais faire ses tours de force, le voir aller, c'est quelque chose que je paierais extrêmement cher, mais on revient pas dans le passé, malheureusement.
Malheureusement, non.
Ouais.
Mais c'est le mindset. Je vais t'avouer, j'ai la chance de connaître beaucoup de champions, surtout en combat, des champions mondiaux. Puis le mindset, c'est ce qui m'impressionne le plus. Quand tu es vraiment un des meilleurs au monde, votre mentalité est pas la même. Je le vois dans vos yeux. Vous êtes comme tu parles de tes compétitions, là, je sais pas si tu le vois, là, mais t'as les yeux allumés comme si t'étais à sa côte. T'as littéralement les yeux allumés comme des ouais, deux piastres. Là.
Mais tu sais, moi je te parlerai de ça toute la journée.
Ah ben je le vois.
C'est ma passion. Mais c'est ça qu'il faut être dans la tête. Parce que moi, dans mon livre à moi, quand même tu voudrais devenir le meilleur du monde en ping-pong, il faut que tu tripes sur le ping-pong, tu comprends-tu? Il faut que t'en manges, puis tu te donnes à 100% là-dedans. Puis c'est limite, c'est d'être maniaque un peu, là. Je le sais que c'est pas normal, je me suis déjà fait dire ça. Je donne souvent des conférences, j'ai donné des conférences dans des entreprises, puis des fois dans des colloques, parce que je suis proche du milieu agricole, puis ça a arrivé que dans des... C'était beaucoup des agriculteurs, je pense, qui étaient ouais. C'était un colloque laitier. Puis, je garde tout le temps du temps pour les questions. Puis j'ai trouvé ça intéressant, la question que le monsieur m'a posée, parce qu'après, j'ai un peu raconté ma vie dans ma conférence. « Ouais, mais là, il dit, là, c'est pas normal, là. » Il dit, « Mangez de même. » Puis il dit, « C'est pas normal. » Il dit, « Forcez de même. » Puis là, j'ai dit, « Monsieur, j'ai dit, l'histoire se rappelle pas du bon normal. » Il a ça, dit, « Vous m'avez bien répondu, monsieur. » C'est ça qu'il m'a répondu.
Mais c'est
ça, je le sais que c'est pas normal. Tu sais, regarde la vie. Moi, je m'inspire beaucoup d'un gars comme Georges Saint-Pierre.
Yeah.
Tu me feras pas croire que ce gars-là, c'est un gars normal.
Définitivement.
Tu sais, moi, je me considère un gars focus, là, mais lui, c'est puissance 10, on s'entend. Là.
Ouais.
Puis c'est ça. C'est pas normal. T'sais, il était maniaque sur ça. Ah, si, non, ma technique est pas correcte. Je sais pas, en lutte ou en
ouais.
Il va s'acharner jusqu'à temps qu'il arrête. C'est de l'acharnement au travail que ça prend, mais de l'acharnement, c'est maladif, finalement.
Mais c'est une obsession.
Mais il est devenu le meilleur au monde, par exemple.
Mais c'est une obsession. Il c'est faut ça. Que ça tourne
c'est une vraiment une obsession, parce que si c'est pas ça, OK, tu peux être bon.
Ouais.
Tu seras pas le meilleur, malheureusement. Tu sais, parce que
non.
C'est pas tout d'avoir du talent. Oui, puis les autres gars, ils travaillent tout fort. On va dire, ah, le gars, il travaille fort. Ouais, mais s'il gagne, il fait quoi que les autres font pas? Tu comprends? Fait que c'est pratiquement obsessif. On va le dire comme ça.
Seul l'est obsessif.
Ouais, mais regarde, c'est ça que ça prend pour devenir vraiment le meilleur au monde dans quelque chose. Puis tu peux même sortir ça des sports puis ramener ça, je sais pas, au monde des affaires.
Mm-hmm.
C'est le gars qui s'est targeté puis lui, son objectif, c'est de monter sa compagnie à tant de chiffres d'affaires. Il va en mettre des heures. Il n'y a personne qui se met riche à faire du 8 à 5. Puis c'est un peu la même affaire dans le sport, tu comprends? C'est pas un mode de vie normal, comme les gens disent. Je pense que c'est ça qui démarque ces personnes-là dans leur domaine. Parce qu'ils veulent, ils sont prêts à tout pour exceller. Tu sais, même s'il y avait 20 000 distractions autour, ils regarderont même pas. Ça les dérangera même pas de pas s'en occuper. Il y a un objectif, il est targeté là-dessus, ça finit là. Puis je pense que, justement, parce qu'il est super connu également, puis à mon avis, pas assez au Québec, je pense que Georges Saint-Pierre, c'était un bon exemple. Puis j'ai écouté sa conférence, puis il le dit beaucoup, hein. Lui, il réinvestissait tout le temps sur lui-même. Mais lui, il a fait des voyages à New York là, pour aller s'entraîner.
Mm-hmm.
Puis des choses comme ça. Il avait un objectif. Puis il n'a jamais lâché cet objectif-là. Il n'en fait même plus de combat. Là, puis je suis sûr que ça entraîne plus que 99%.
T'as-tu vu Coquet de l'air? J'ai vu une photo de lui, pas de chandail, la semaine passée. Le gars, il a encore un 8-pack.
Ouais, il est s'accroche. Puis il a plein de glace à tous les matins. Let's go! Il prend rien à légère. Mais je pense que quand tu es motivé de même dans un sport, ça se reflète dans les autres sphères de ta vie, mais j'aime ça voir des gars de même, de d'autres sports, d'autres domaines, se donner comme ça, puis ça m'inspire, regarde, il est capable, ça, c'est parce que ça se fait. T'sais, moi, je suis plus du gars à regarder en avant, en étant positif, puis en voulant en mettre plus. Je suis discipliné, mais je suis capable d'en faire plus, je suis capable de m'entraîner plus fort. Moi, je pense tout le temps qu'il y a un autre gars, là, qui va compétitionner dans 3 semaines avec moi, qui s'entraîne plus fort que moi. Je me suis tout le temps dit ça, ça fait 17 ans que je me dis la même affaire, let's go, ah oui, faut pas lâcher, c'est dans ce sens-là. Parce que si ça part de l'autre bord, ah là, ça va pas bien, puis là, t'es plus motivé, puis tu t'en viens depressed un peu, c'est sûr que t'auras pas des bons résultats. Fait que, mais je pense que c'est sûr que si t'es passionné de ce que tu fais, ça se fait tout seul. Moi, j'ai pas l'impression de faire des efforts à ce point-là. J'ai l'impression juste de faire ce que j'aime, puis c'est cool.
D'où tu penses que ça vient, ça? Parce que c'est quelque chose que je suis extrêmement... J'ai plein d'affaires qui arrivent en même temps. Je dois me taper des heures de... des 100 heures par semaine en ce moment. Ma job normale, puis tout le reste que je fais, je comprends d'où ça vient. Comme pour moi, de me motiver, c'est facile. Je t'ai levé à 5 heures un matin pour venir ici. J'ai conduit 2h30. Je vais me refaire un autre 2h30 après, puis je suis tellement content de l'avoir fait. Ça me motive de le faire, de parler avec des gars comme toi, mais qu'est-ce que toi, d'où tu penses que ça vient, ça? De savoir que... J'ai l'impression, comme tu regardes notre société d'aujourd'hui, on n'est plus motivé. Comment on fait?
Mais moi, j'ai pas été élevé de même, je vais te dire.
Tu penses-tu que ça vient de la famille?
Oui. Oui. Moi, j'ai été élevé sur la ferme.
Ouais.
Fait que je sais c'est quoi se lever le matin.
Ouais.
Puis je sais c'est quoi pas savoir quand est-ce qu'il va finir le soir.
Ouais.
Puis une vache, là, ça arrête pas de donner du lait le dimanche, puis à Noël, puis au jour de l'an.
Faut que
tu te lèves, puis tu le fais. T'as beau avoir la grippe, là, tu te lèves, puis tu y vas. Parce qu'il n'y en a pas d'autres qui vont y aller.
Ouais.
Moi, j'ai vu mon père faire ça toute sa vie. Tu comprends? Dans le fond, t'as même pas le droit d'être malade, là. C'est ça.
Ouais, ça n'a même pas d'importance.
Avoir une ferme. Fait que moi, j'ai pas eu l'exemple de quelqu'un qui reculait. Moi, mon père, là, pas se lever le matin, là, jamais vu ça. Jamais. Tu comprends? C'est ça. Puis mon grand-père, c'était la même chose.
Ouais.
c'est la même chose. Puis moi, j'ai vu mon père travailler fort. Moi, quand j'étais jeune, j'avais 9 ans. Ma mère est décédée d'un cancer. Elle avait 36 ans. Mon père s'est ramassé tout seul avec 2 enfants. Il s'est levé à toi matin pareil. Tu comprends?
Pas d'excuses, hein?
Ça devait pas être tenté. Pas d'excuses, c'est ça. Des excuses, là, moi, c'était pas la bonne affaire à sortir chez nous. Tu comprends? Oh, mais ta gueule. Tu te lèves, tu t'en viens. Ça finit là. Pas de discussion. J'ai été levé de même. Fait que pour moi, c'est ça. Regarde, ça te tente. Moi, aujourd'hui, c'est pas grave. Ferme ta gueule, tu le fais. C'est peut-être cru un peu, mais tu sais, des fois, un petit coup de pelle derrière, ça ferait pas de mal à bien du monde.
La vie est crue.
Justement.
La vie, elle est déjà
en partant. C'est le fun, elle avait flotté dans Watt, puis là, ils ont peur.
Flotté dans Watt!
Mais un moment donné, tu vas l'avoir deux fois plus fort d'en face. Mm-hmm. C'est ça qui va se passer. Mais j'ai tout le temps vu quelqu'un qui travaillait fort de même. Mais je peux te dire une affaire, là, quand je regarde ce que mon père faisait, là, moi, je travaille pas. Puis il est rendu à 64 ans, puis j'ai l'impression qu'il travaille carrément plus fort que
il
moi.
Il travaille-tu encore de même?
Ouais, mon père, OK, il n'y a plus de vaches. Mais ouais. Tu sais, il garde des chevaux pour le fun, 25-30 chevaux. Il y a des lots à bois, pis, des machines dans le bois, ça travaille à côté. Mon père, il se lève à 3 matin encore, puis il reste pas dans la maison. Là. Appelle pas chez nous là à 10h le matin ou à 2h l'après-midi.
Il est pas là.
Il n'y a personne. Fait que pour lui, c'est normal. J'ai tout le temps vu faire ça. Fait que quand moi, je me pogne le beigne, je fais juste bouffer tout l'avant-midi, puis j'ai juste à venir m'entraîner dans ma journée. Là. Puis peut-être un petit traitement de chiro avec ça. Là. T'embarques dans le pick-up, tu y vas, puis tu dis, ouais, finalement, ma journée n'est pas si dure. Parce que j'ai passé des journées, là, ça ferme, là, je peux te dire, c'était pas mal plus dur qu'une journée de training.
Tu l'aides encore, ton père, ou ça?
Ben, c'est parce que mon père, il reste loin. Moi, je viens du coin de Rimouski.
Ouais, oui, tabarnak.
Mais je le vois beaucoup moins qu'avant. Mais, tu sais, des fois, le travail, ça ferme aussi, ça me manque. Mais c'est ça qui m'a appris j'ai transféré ça dans le sport, travailler fort.
Ouais.
C'est moi et mon grand-père. Mon père, c'est ça qu'ils m'ont montré depuis que je suis au même. Tu sais, moi, j'avais 2 ans, je dormais dans le tracteur.
Ouais.
J'ai tout le temps suivi mon père, puis c'est ça que j'ai vu. Puis j'ai été élevé comme ça. Et que j'ai vu ces messieurs-là travailler comme ça n'a pas de bon sens. Hein.
C'est drôle de t'entendre parler de ton père comme un monsieur. Moi, je te considère, à ta grosseur, je te considère un monsieur. Fait que ton père est plus petit que toi, j'ai l'impression.
Il est oh, oui, il est plus petit que moi, mais tu sais, moi, déjà, mon père, je suis encore un flou, là, même. Tu comprends? Mais il est super fier de ce que je fais.
Il l'est, hein? C'est ça, j'allais te demander. Ça doit être impressionnant pour ton père.
Ben oui, il est très fier. Mais au début, quand j'ai commencé, il ne comprenait pas. Voyons, on travaille à la place. Parle de temps, ça crisse. Tu vois le style Tu vois le style de monsieur? Mais à un moment donné, il est venu me voir.
Ouais.
Puis il a comme... Oh!
Aïe, aïe.
OK. Il est comme une coche en haut des autres. Là.
Il l'a vu tout de suite.
Non, d'après moi, il dit à de quoi, là? Fait que il m'a tout le temps encouragé à continuer. Puis tu sais, à tous les ans, on a une compétition mondiale à Warwick, qui est maintenant une étape du circuit Arnold Classic. Puis mon père, il vient me voir à tous les ans cette compétition-là, parce que c'est la plus grosse au Canada. Puis j'ai eu souvent la chance de gagner cette compétition-là en avant de mon père. Puis sérieusement, là... Quand mon père est là, on dirait que ça me donne une shot de plus, parce que là c'est pas le temps de te pogner le cul. Là. Wow. Tu comprends? Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, là, ça allait jamais assez vite. C'était tout le temps ça. C'était jamais assez vite. T'étais jamais assez fort. Il fallait que tu te forces tout le temps. Mais je pense qu'à un moment donné, ça prend ça pour avoir de la drive un petit peu dans la vie. Puis à l'école, tu sais, moi et ma soeur, on était bons. Là. Moi, j'ai tout le temps des moyennes en haut de 90. Puis ma soeur également, mais c'était jamais assez. Tu comprends? Puis on est élevé de même. Je pense que ça vient beaucoup de la mentalité de comment t'es élevé. Mais aujourd'hui, je l'apprécie. Je l'apprécie beaucoup d'avoir eu peut-être cette enfance-là, peut-être un petit peu plus difficile que la moyenne des gens, mais ça m'a appris que le travail, c'est important. Puis quand tu travailles fort, tu peux te rendre pas mal plus loin que tu aurais peut-être espéré. Puis regarde, j'ai projeté ça dans le sport. Puis ça s'est avéré super payant. Pour moi, j'ai eu des super bons résultats. Puis en plus, dans ma tête, moi, je travaille pas. Là. Je travaille pas. Fait que je retournerai pas là, ramasser de la roche encore. Non, je charger du foin. Je le dis.
As-tu déjà dit à ton père ça, ce que tu me dis là?
Oui.
Ouais.
Oui.
Ça doit y faire chaud au cœur en sacrement de savoir que la raison de autant de succès est basée sur ce qui t'a. Sur ce qui t'a transmis, dans le fond, là. Oui. En le regardant lui puis oh, son oui, père.
À 100%. 100%, ça vient de là. Puis je l'ai tout le temps dit aussi. Le monde dit « Ah, t'es fort parce que tu travaillais sur la ferme. » OK. J'ai dit « Ça n'a peut-être pas nuit. » Mais je suis fort parce que j'ai appris à travailler fort.
Mm-hmm.
Sur la ferme. Ça, c'est différent. Fait qu'à cette heure, pour moi, c'est facile. Là. C'est facile. Tu sais, le matin, je me suis levé à 8 heures. Mon père ne s'est jamais levé à 8 heures de sa vie. Tu sais, j'ai pas... Dans ma tête, là, je suis en vacances. Tu comprends? J'ai juste à venir m'entraîner... OK, là, il faut que je fasse mes étirements, puis que je fasse mes repas, puis que je mange aux 2 heures.
Tu fais la split, toi, hein?
Non. Non, je la fais pas. Je la fais pas, la split, mais c'est super important de garder une bonne souplesse, des bonnes mobilités. C'est ça qui va apporter des blessures. Fait que c'est très important. Mais c'est sûr, quand t'as connu pire, c'est tout le temps moins pire. J'ai entendu une publicité tantôt en m'en venant ici. Le syndicat, je me rappelle plus de qui, de. Je pense que c'est Revenu Québec, là. Canada, là, que, là, ils disaient que leur membre était épuisé, puis qu'ils travaillaient fort, puis ils n'étaient pas assez... j'ai de la misère avec ça. Je dis vous ne travaillez pas d'une mine de charbon, sacrément.
Travaillez dans un bureau.
Tu comprends, c'est peut-être cru un peu, puis j'ai rien contre les gens qui font cet emploi-là. Mais là, un moment donné, là, quand tu es obligé de faire une pub à radio pour dire ça au monde, c'est peut-être parce que c'est peut-être parce que ça n'a pas sa place, justement. Puis là, regarde... Il doit faire 35 heures par semaine, ce monde-là. Tu ne me feras pas regretter si brûlé que ça. Là. Moi, j'ai vu du monde là, faire des 100 heures par semaine, puis 7 jours sur 7. Là. C'est ça, le travail sur la ferme. Puis, j'ai jamais entendu dire à mon père dire qu'il était brûlé. Là.
C'est le. Ça, mais encore là, je ne sais pas si tu connais un gars qui s'appelle Jordan Peterson.
Non.
C'est un psychologue de Toronto qui est rendu mondial aujourd'hui parce qu'il a des propos très intelligents, mais. Il n'y a pas de censure. Puis il va dire sa façon de penser, mais il dit tellement d'une façon intelligente que c'est très dur de dire non à ce gars-là parce qu'il a raison. Mais il est très cru. Très, 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 très cru. Puis c'est une des choses qu'il dit, c'est le monde a trop de temps. Peut-être. Littéralement, la raison que le monde se plaigne autant qu'ils se plaignent aujourd'hui, puis sont tout le temps en train de chialer, puis ils sont pas heureux, ils ont trop de temps à rien faire.
Ouais.
Fait que. Qu'est-ce que ton père est supposé de faire s'il travaille 12 heures par jour?
Oui, mais peut-être aussi que ces gens-là ont beaucoup entendu chialer. Tu comprends?
Ils n'ont pas eu... Ils ont
moi,
pas
chez
eu...
nous, là, tu ne chialais pas. Là. C'était ça. J'ai appris vite. Si tu t'astines, ça va être pire.
Ouais, ferme ta gueule, fais-le.
Ferme ta gueule, fais-le. Ça marchait comme ça, tu comprends? Mais, c'est complètement différent maintenant. Tu as raison. Mais je pense tout le temps, moi, je reste avec la mentalité que si tu as connu pire... Des fois, tu dis, oh, Chris, c'est peut-être chanceux de juste faire ça, finalement.
Oh, mais il faut que tu aies des parents qui sont prêts à te. Je veux pas dire à te punir, mais tu sais, à.
Ils t'apprennent la vie, par exemple.
Oui, mais c'est parce que punir. Je fais très attention à mes mots. J'ai tendance
moi,
à vraiment
j'appelle,
peser
j'appelle
mes
pas,
mots.
J'appelle pas ça punir non plus. Ça fait partie de l'éducation.
Oui, mais ça. C'est supposé d'être dur, la vie n'est pas supposée d'être facile.
C'est ça, ben, parce qu'elle va l'être.
Ouais.
Elle va l'être dure.
Ouais.
Fait, s'ils te la donnent peut-être trop facile, moi, je pense que c'est pire. J'ai vu du monde, moi, avoir bien, bien du fun là, quand ils étaient jeunes, puis ils étaient bien chanceux. Puis ils ont pogné un esprit de 2 minutes plus tard. Mais ça, ils avaient tout le temps connu à belle vie.
Ouais.
C'est ça, mais chaque personne va réagir différemment aussi. Ça dépend du tempérament des gens. Mais, tu sais, des fois, c'est vrai, là, tout le monde se plaint. On dirait que c'est le fun pour ça. Là. J'entends tout. Pourquoi il y a autant de publicité de syndicats radio? Je le sais pas. Pour moi, il y a des deals sur la pub dans cet site, mais je n'entends tout le temps. Là, une telle. Hey, l'autre jour, c'est les déneigeurs du ministère des Transports qui se plaignaient que tu n'es pas assez payé. Vas-y, au privé. Écris, tu vas trouver mon homme, tu vas te lever en esti, puis le fonds de pension blindé, là, tu vas t'en passer. Tu sais, un moment donné, elle regarde tout. Charles Poing, c'est un petit bout, là. On va tout faire le tour. Il n'y a personne qui t'attache là. Tu sais, je ne suis pas anti-syndicat non plus. Mais là, un moment donné, il y a une limite parce que je sais que c'est du monde dans le type de métier qu'ils font qui sont très, très choyés.
Oui, absolument.
À comparer à bien des autres. OK? Fait que là, dans ce temps-là, là, arrête de broyer. Là, prendre... Moi, je dis tout le temps au monde, regarde, mettons, tu es assis dans ton bureau, tu es allé acclimatiser, puis tu travailles, puis là, tu fais pitié. Là. Ça te donne le goût de chialer, puis là, c'est dur. Tu regardes dehors, tu vois deux gars là, qui travaillent sur une toiture plat avec des torches, puis il fait 35 dehors.
Ouais.
Tu sais quoi tu fais dans ce temps-là? Tu t'en revires d'abord, tu continues à travailler.
Puis tu fermes ta gueule.
Moi, je pense de même, puis tu fermes ta gueule. Il y a tout le temps pire.
Mais c'est clair.
Mais là, à un moment donné, c'est rendu que le monde, ils veulent plus travailler fort, mais ils veulent tout avoir.
Écoute, je suis le seul dans ma famille qui travaille pour le privé. Ma famille, ma mère, ma soeur, mon père, c'était tout du public. Puis, je m'excuse, là, mais ils méritent pas leur salaire. Je vais le dire bien franc, là. Ma soeur, au privé, elle ferait la moitié de son salaire. Pas de pension, pas rien. Et ils trouvent le tour de chialer.
Ouais,
puis non seulement ça, mais tes hosties de pub que t'entends là, sont payées avec tes taxes.
Ben, je sais. C'est ça. C'est pour ça que Charles, sinon j'en parlerai pas.
Ouais.
Parce que je le sais qu'il y a de mon argent qui vont là-dedans. Mais ça, j'ai un petit peu de misère avec ça. Je vois Frank, toi, le monde qui se plaint, puis ça se plaint. Tu sais, il y a juste un monde qui travaille au gouvernement, là, qui ont des fonds de pension blindés par bord en bord.
Ouais.
Comme ça, les gens qui travaillent au privé, malheureusement, on aura pas cette chance-là. Fait que ça, c'est un avantage. Puis, pas vu personne mourir de faim là, qui travaillait pour eux autres. Là. Fait que je pense que tu peux tout le temps améliorer ta situation, mais là, je pense que c'est rendu à l'extrême. Puis le monde, ma conjointe travaille dans le milieu de la santé, c'est pas facile ces temps-ci.
Ah, c'est clair.
Mais il y en a beaucoup. Là, là, il n'y en a pas un qui veut travailler, puis en même temps, ils braillent tous qui n'ont pas d'argent. Mais là, à un moment donné, sors de chez vous, mon chum, puis envoyez. Tu sais, il n'y a rien de gratis dans la vie. Mais moi, j'ai commencé à savoir mon premier salaire, je travaillais avec mon père.
Oh boy.
Je peux te le dire, ça ferme. Je faisais 25$ par semaine.
Et tabarnak.
J'avais 14 ans.
Ouais.
Je me levais à tous les matins, tirer vache. Là, c'est l'été, il n'y avait pas d'école. Fait que c'est tout le temps, là, c'est 7 jours sur 7. Quand j'ai commencé à avoir une vraie job, là, puis que je gagnais 400-500 semaines, je capotais.
Ouais, ouais, c'est ouais. Ouais,
fait que j'étais bien heureux. Je n'allais pas chialer à mon boss que je n'étais pas assez payé. Tu vois,
c'est jamais assez. Hein?
On m'a appris la valeur de l'argent également. Mmh. C'est important. Fait qu'à cette heure, là, que je vois une compétition comme au World Strongest Man, puis je reviens de là avec 20-30 000.
Ouf, ouais, ouais.
Puis, tu sais, les gens m'ont pas entendu me plaindre non plus. Regarde, mon gym est fermé. J'ai perdu 200 000 piastres de contrat l'été passé avec le circuit Homme Fort parce qu'on avait 12 événements qui ont été cancellés. Tu sais, je suis pas allé me plaindre. Puis, bon, regarde, j'ai pas le contrôle là-dessus, tu veux que je fasse.
Ouais.
Là, je ferme ma gueule puis je vais passer au travail. T'sais, moi, je le vois comme ça. T'sais, ils n'ont rien à foutre de moi, là, le gouvernement, là, quand même, que je me mettrais là puis je chialerais. Ça repartira quand ça repartira. Je le vois de même. Je pense que c'est de rester positif là-dedans. Mais il faut être de l'avant. Se plaindre, là, ça t'amènera pas à mieux, je pense. Tu remarqueras, là, le gagnant, on parle de sport. Le gagnant d'un sport, le champion d'un sport, là, tu n'entendras jamais se plaindre.
C'est vrai.
Jamais. Il ne se plaindra pas là, que un tel a fait ci. Non. Lui a gagné, ça vient de s'atteindre. Il a fait la job, il s'est rendu au bout. Il a gagné pourquoi? Il l'a fait, par exemple.
Ouais.
Il a fait les efforts pendant des années. C'est ça, le monde, il ne le voyait pas. Ça.
Non.
Peu importe le sport. C'est le joueur, il joue au golf, il gagne le tournoi de golf.
Il ça voit fait juste peut-être 20
ans là, qu'il tape. 2000 balles par jour.
Yep.
Mais on le voit pas.
Ils sont pas intéressés à ça non plus.
Tu vois le résultat final, mais tu n'entendras pas se plaindre après. Là.
Ben non.
Tu comprends? Fait que, quand j'ai été élevé de même, tu sais, je peux pas. Y en a qui seront pas d'accord avec moi. Il y en a qui vont être d'accord. Mais regarde, moi, ça m'a servi. Puis je vais continuer. Puis, tu sais, c'est pareil chez nous maintenant. Là. Moi, j'ai cette mentalité-là. Fait que ça va continuer. Puis, regarde, on jasait avec Jimmy tantôt. Jimmy, ça va faire 9 ans là, qu'on s'entraîne ensemble, que je l'ai pris sous mon aile un peu des hommes forts. Jimmy s'est rendu au niveau international. Ben, il a appris de même. Là.
Ouais, c'est... ferme ta gueule puis envoie.
C'est ça. Lui, il arrive ici. C'est pour s'entraîner. Là. J'ai jamais entendu se plaindre. Puis il me dire, ben là, aujourd'hui.
Non,
jamais. Ouais. Jamais. Mais pourquoi? C'est le seul qui m'a suivi pendant toutes ces années-là, puis qui a continué, puis qui est devenu deuxième au Canada, finalement. Mais c'est une mentalité. Moi, j'appelle ça une mentalité de gagnant.
Yep.
C'est ça qui t'amène à tes objectifs. Mais je comprends que c'est pas possible pour tout le monde. Puis il y a aussi du monde qui va être beaucoup moins chanceux dans la vie que d'autres. Ça, moi, je me considère très chanceux dans la vie d'avoir eu une jeunesse comme ça. Tu sais, j'ai jamais été dans la misère. Là, puis j'ai fait du sport. Puis ça a été super. Oui, on a travaillé fort. Mais regarde, ça n'a jamais tué personne. Là,
check ce que t'as donné aussi.
De travailler fort. Mais c'est comme ça que tu vas te ramasser de quoi dans la vie, puis que tu vas réaliser tes objectifs. Moi, j'étais beaucoup proche de mon grand-père parce que j'ai beaucoup été élevé sur la ferme avec mon grand-père et ma grand-mère, étant donné que ma mère est décédée jeune. Ils se sont beaucoup occupés de nous autres, puis ils vivaient sur la ferme, finalement. Puis quand mon grand-père est décédé, c'est ça qu'il me dit. Il dit, continue à travailler fort, mon homme, puis tu vas réussir ce que tu fais. Puis à l'époque, j'étais pas rendu au niveau international encore des hommes forts.
Ouais.
J'étais pas champion canadien parce qu'il est décédé en 2010. Je suis devenu champion canadien en 2011. J'aurais juste aimé ça qu'ils puissent voir un peu. J'étais rendu où? Ouais, peut-être qu'ils le voient.
ça, c'est pas sûr.
Ça ne saura jamais, mais des paroles comme ça, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour les aînés. Mais juste quelqu'un qui a plus d'expérience que moi.
Ouais.
Pas juste les aînés. Il y en a qui ont eu là, des bouts de rough dans la vie. Là. Puis T'sais, tous vos grands-parents, là, ils l'ont eu sûrement pas mal moins facile que nous autres. C'est, des fois, il y en a qui vont dire que c'est du radotage, là, mais sérieusement, il y a de quoi apprendre de ça. Puis moi, je les ai pris au mot, ces paroles, puis je me suis planté les pieds, puis j'ai travaillé fort.
Puis check ce qui est arrivé.
C'est ça. Fait que, peut-être que ça aurait pu pas arriver aussi, mais c'est sûr que si j'aurais pas travaillé, oh boy.
T'étais sûr que ça n'aurait pas arrivé. 100%
que ça arriverait pas. Ça, c'est sûr.
Ça fait un petit peu plus qu'une heure. J'ai une question pour toi. Je finis tout le temps de la même façon.
Oui.
Si t'avais la chance de parler, étant toi en ce moment, là, l'homme de 350 livres, sacrément, ça n'a pas de sens. Si tu avais la chance de parler à ton jeune de 14 ans, à ton jeune toi de 14 ans, qu'est-ce que tu dirais?
C'est ce que je dirais. Mais premièrement, je dirais que dans la vie, il faut travailler. Ça, moi, ça passe par ça. En plus, ma conférence, ça parle que de ça. Ouais. L'importance du travail. C'est ça, genre. Puis, je pense que c'est pour ça, peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui me demandent cette conférence-là, parce qu'on dirait qu'ils ont des employés qui n'aiment pas ça travailler.
Ils sont pas motivés.
Puis, juste trouve-toi de quoi que t'aimes, une passion, là, puis donne-toi à 100% là-dedans. Pas, non, tu devrais prendre ça à la place, ça, tu vas faire plus, tu vas faire 5 piastres à l'heure. Non, ça n'a aucun rapport. Dans la vie, là, je pense que la recette du succès, trouve-toi quelque chose que t'aimes, puis donne-toi à fond là-dedans, puis arrête de compter tes heures, puis de... Tu sais, écouter Netflix, c'est mal fun, là, dans cet site, là, mais c'est pas payant, ça. Tu comprends? Payant dans le sens de résultat, pas juste d'argent. Mais si ton jeune, il peut trouver quelque chose qu'il adore, puis il met tout son temps là-dedans, puis en plus d'avoir du plaisir, il va réussir dans la vie. Puis toujours d'être honnête, puis de rester humble.
Écoute, j'arrête ça direct là. Beautiful stuff. Merci, monsieur.
Ça fait plaisir, mon chum.